Bonjour. Bonjour les gens. Ça roule? Attends. Merci Wooling. Merci, 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 merci. Pif, paf, pouf. Petit stream du matin. Il est quelle heure? Il est midi du matin. Ah, c'est dimanche. C'était bien la messe ce matin? Je sais pas, je suis pas allé. Faites entrer l'accusé. Ça va? Comment va le petit chat? Écoute, ça a l'air d'aller. J'ai fait un test hier soir pour voir si elle avait toujours peur de moi. Elle a toujours très très peur de moi. C'est pas pour tout de suite, les ronds. Bonjour, condamnez-vous les violences? Alors je condamne pas, ça risque de les faire monter. C'est ici qu'on fait monter la rhinopharyngite nasale. Dans 2 mois, son chat a toujours peur de lui. Oh non, dis pas ça! Oh non, le petit chat! Ça se trouve, elle a peur de moi parce que. Ça se trouve, elle est antiraciste. Cette fasciste. Cette fasciste de la pensée unique. Elle veut pas se mélanger. Alors comme ça, on a les petits papiers de Marine. Ouais, Simon. C'est ta faute aussi, Simon. Tu fais monter le RN, toi. T'en parles jamais. Salaud. Bruno Le Maire, futur prix Nobel de littérature. Ah bah ça. C'est une copine qui m'a dit ce matin, il faut séparer le ministre de l'écrivain. Je suis d'accord. Faut séparer le ministre de l'écrivain. Faut pas amalgamer les deux. Je pensais pas que lui faire des petits fours tous les matins, ça la faisait monter. Je suis désolé, je démissionne de sa gouvernance. Je voulais te remercier, je suis sympathisant du RN et je sens que c'est grâce à toi que mon parti est au top. J'espère que Marine te nommera un ministre des jeunes. Ouais. Écoute, tant mieux, hein. C'était une sacrée émission, dis donc. Ouais. Bon, bah du coup, voilà, vous l'avez vu, hein. Je vous avais dit que ça valait pas le coup. Mais c'est pas grave. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Je vous infligerai plus ça. Tu vois, tu parles jamais de l'Ukraine, tu vois où est-ce qu'on en est. C'est vrai. Tu veux y retourner? Non. Non, 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 non. Je serais probablement pas réinvité non plus, c'est pas grave. C'était enregistré quand? Non, non, c'est enregistré. Quelle époque? C'est enregistré le vendredi après-midi. Quand il y allait, tu savais déjà que la journaliste de Bolloré allait t'attraper pas avec le. Non, non, mais en fait, je savais rien. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, pour comprendre mon état d'esprit, c'est que je pense que j'ai fait une erreur. J'ai péché par naïveté. C'est que j'ai pas regardé l'émission avant d'y aller. Erreur de. Je sais, j'ai pas le temps. En ce moment, j'ai pas le temps. J'ai dit oui parce qu'on m'a proposé. J'ai dit ouais, faut s'habiller comment parce que du coup je connais pas le plateau. J'ai fait un bref. Et en fait, je connaissais pas l'émission qui s'appelle Quelle époque. Je connaissais pas cette. J'avais jamais vu. Du coup, je savais pas très bien dans quoi j'allais. On m'avait juste dit que le thème ce serait la première année de la réélection d'Emmanuel Macron. Du coup, pour vous dire à quel point j'étais à côté de la plaque. J'ai lu le rapport du GIEC, j'ai lu le rapport de la Cour des comptes, j'ai lu le rapport d'Oxfam, j'ai regardé le compte-rendu du Conseil européen. Voilà, je me suis préparé à faire une analyse politique de la première année du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, quoi. En fait, bon, bref. Donc vous voyez à peu près le truc pour vous dire à quel point je. Non. Non, non, pas du tout. Dommage. Ouais, non, non. Non, non, mais enfin, vraiment, c'était une erreur de ma part de d'accepter sans regarder, d'y aller sans regarder. Et voilà. Parce que enfin, après, mais ça, vous le savez, on en a déjà parlé. Moi, je regarde pas la télé. Je suis pas du tout le public cible des émissions télé. Je la regarde pas. Ça veut pas dire que je ne l'aime pas. Hein. C'est pas du mépris de ma part. Faire attention à ça. C'est juste que ça s'adresse pas à moi et du coup je la regarde pas et c'est pas grave. Mais que du coup c'est bien de savoir où on met les pieds avant d'y mettre les pieds. Pour vous dire à quel point je regarde pas la télé, c'est l'anecdote que j'ai racontée hier. Christophe de Chavannes, je croyais qu'il était mort. Moi, c'est vaguement des souvenirs d'enfance, Christophe de Chavannes. Je pense que j'ai été conçu devant une émission de Christophe de Chavannes par mes parents qui ont dû baiser fin années 80. Moi, Christophe de Chavannes, c'était des souvenirs de la télé en 4 tiers et tout, cathodique, machin. Et c'est voilà, pas de manquer de respect c'est même pas ce qu'il fait, mais du coup, je me suis retrouvé sur un plateau face à lui, je l'ai vu, je me suis dit, c'est marrant, il me rappelle quelqu'un. J'avais plus son nom, et c'est Léa Salamé, quand elle l'a présenté, elle a dit Christophe de Chavannes. Ah putain! Ah, mais Christophe de Chavannes! Ah bah super, très sympa d'ailleurs, Christophe de Chavannes, hein, absolument adorable, très gentil, très. Pas très bien compris ce qui. Alors. J'allais dire, j'ai pas très bien compris ce qu'il faisait sur le plateau. Faut bien comprendre un truc, c'est que je n'ai pas compris grand-chose de cette émission, parce que comme je regarde pas la télé, que je suis pas le public cible de la télévision, je comprends pas très bien les codes. Et en fait, c'est marrant, je me suis fait la réflexion cette nuit. Je me suis retrouvé dans la même situation que quand quelqu'un de la télé vient sur Internet ou sur Twitch. Je comprends du coup le côté désarçonné de. Oh je maîtrise pas les codes, je comprends pas l'attendu, je comprends pas la cible, je comprends pas le dispositif éditorial, je comprends pas le rythme. Du coup, je comprends rien, je comprends pas le plateau, je comprends pas le public, je comprends pas ce qu'on attend des gens, quel est le but, quel service on rend aux gens qui regardent l'émission, qu'est-ce qu'on doit leur montrer, qu'est-ce qu'on doit leur apporter, c'est quoi la plus-value. Et voilà quoi. Et donc du coup vraiment j'ai pas compris le. Mais d'ailleurs je l'ai dit au producteur de l'émission, je comprends. Enfin je. On était 12 autour du plateau. 12 personnes autour d'un plateau, moi pour moi c'est physiquement pas possible. Ça c'est mon côté producteur d'émission. Déjà en termes d'angle de caméra, tu fais comment? Genre ça n'a pas de sens. 12 personnes autour du plateau, je comprends pas. Dans les 12 personnes, il y a des gens extrêmement différents les uns des autres. Même si quand même c'était très. Analyse politique, donc c'était du journaliste et des gens de plateau télé. Mais enfin, tu vois, mettre un Darius Rochebain à côté d'un Nolo. Darius Rochebain fait partie du très très haut niveau du journalisme télé. Éric Nolo, c'est un polémiste de plateau. Et il n'y a pas de mépris dans ma bouche quand je dis ça. C'est un job, c'est un rôle. Il le fait d'ailleurs assez bien. Faut croire. Et puis un Jean Massier, pourquoi moi? Qu'est-ce que je viens faire là en fait? Vraiment, je crois que j'ai autant été spectateur de l'émission que vous. Hein. J'étais en bout de plateau et je regardais l'air éberlué. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est un peu la seule question qui m'a traversé l'esprit pendant toute l'émission, quoi. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Pourquoi? Qu'est-ce que... Et puis même... Cécile Duflot, ancienne ministre, désormais responsable associative d'une grande association qui vient de rendre un rapport, donc il y a une actu. Et en même temps, on n'a pas parlé de son actu. Enfin, il a fallu qu'elle en parle. C'est pas une polémique, elle n'est pas journaliste. Fallait faire comme le petit chat et foncer sous l'évier. Pourquoi t'as eu envie d'accepter l'invitation? En fait, faut... Enfin, parce que je suis toujours... Moi, c'est toujours le problème, c'est qu'on m'invite. On m'invite, déjà. Déjà, faut comprendre qu'on m'invite. Moi, je m'invite nulle part. On me propose de m'inviter. Et moi, j'ai toujours une tension interne, personnelle, que je vous livre. La première, c'est... J'ai pas le temps pour ces conneries. J'ai pas d'énergie à mettre là-dedans. Ça ne m'apporte rien, voire ça me coûte. Et la deuxième, c'est... Sois pas sectaire, arrête d'être con. Va rencontrer ces gens-là. Parce que par ailleurs, que je le veuille ou non, l'environnement médiatique du pays dans lequel on vit reste télévisuel. En grande majorité en politique. Donc je peux pas... et je peux pas et je n'ai pas intérêt. En fait, c'est toujours pareil. Hein. Si je veux vous rendre service en vous faisant des émissions de qualité, je me dois de faire gaffe à l'environnement médiatique dans lequel j'évolue. Donc c'est in fine pour vous que je me force à rencontrer des gens qui font des choses qui sont pas ce que je fais ni ce que je veux faire, mais c'est pas grave et je leur en veux pas, etc. Donc vas-y, à chaque fois je me dis, sois pas sectaire, accepte. C'est aussi mon côté innovation, tenter des trucs. Tenter des trucs que j'ai jamais fait, c'est ce que j'ai toujours fait sur ma chaîne, ça fait 10 ans que je fais ça, je tente des trucs que j'ai jamais fait, en me disant on verra bien, et bah parfois ça marche et parfois ça marche pas, c'est ce qu'il faut se dire. Donc j'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé Toutologue de plateau en chaîne d'info en continu, j'ai essayé donc en analyse politique, j'ai vite fait essayer débatteur de plateau, j'ai laissé tomber très vite parce que vraiment je suis pas fait pour ça. J'ai essayé, j'ai répondu à plein d'interviews où on me parle de mon sujet, c'est-à-dire ce que je fais et pourquoi je le fais. Bon, ça, pour le coup, c'est pas difficile, hein. Et donc voilà, donc je veux pas, je préfère, en fait, ce que je vais vous dire, c'est que je préfère pécher par naïveté, en me retrouvant dans des trucs dans lesquels je regrette après. Plutôt que de pécher par crainte mal placée et m'enfermer et ne rien faire d'autre que ce que je connais. C'est trop facile. Voilà. Mieux vaut avoir des remords que des regrets. On peut un peu le synthétiser comme ça. Ok, Big Flo. Donc voilà. Donc je m'en veux parce que j'ai l'impression d'avoir cautionné un truc, un dispositif. Et en même temps, je m'en veux pas parce que déjà, je remercie la production de m'avoir invité. Ce n'était rien d'autre qu'une invitation. J'ai été contraint à rien. On m'a pas forcé. On m'a pas acheté. On m'a pas. Voilà. Je remercie Léa Salamé de ne pas m'avoir présenté comme le youtubeur de service qu'elle aurait pu faire. J'ai eu l'impression que ma voix autour du plateau était accueillie, en tout cas par l'animatrice, enfin la journaliste Léa Salamé, au même niveau que les autres. Et je la remercie pour ça. D'ailleurs, je la remercie après pour ça. Tu l'avais déjà rencontré à Salamé? Non. Non, non. Elle t'a présenté comment? Bah, en fait, il y avait 12 personnes autour du plateau, donc personne n'a présenté personne. Hein. Alors, si, elle avait une pile de bouquins, parce que alors, là aussi, tu comprends la logique, il faut sortir des bouquins pour être invité sur des plateaux, du coup, il y a des gens qui sortent des bouquins. C'est une logique. Puis, alors, il y a à boire et à manger hein, dans les bouquins. Moi, j'ai pas sorti de bouquins. Donc, non, non, elle m'a pas présenté, en fait. Dans le. Quand je suis arrivé. Dans le couloir avant l'émission, elle m'a croisé, elle m'a fait ah, je suis trop contente que vous ayez accepté d'être là. Ça faisait longtemps que je mettais de la pression à la prod en leur disant ce serait bien qu'on ait le petit de Twitch. Il y a eu un blanc. Après, elle m'a dit, enfin un petit pas si petit que ça. Bah les couilles. Bah, voilà. Mais c'est alors vraiment, je veux bien que c'est important pour moi que vous compreniez, je n'en veux absolument pas ni à la prod de quelle époque, ni à Léa Salamé. Ils ont eu la gentillesse de m'inviter. Ils ont eu la délicatesse de ne pas me présenter comme un petit con sorti de YouTube. C'est le dispositif en général qui faisait que ça n'avait aucun sens. Et que du coup, j'ai souffert à peu près autant que vous. Oui. Et à la fin, c'est vous dire, mais c'est en vrai, c'est drôle, hein, mais c'est vous dire à quel point la télé, Internet, on se comprend pas. Et d'ailleurs, j'avais une discussion à la fin dans le couloir entre Léa Salamé et son producteur et moi, et voilà, je leur disais un peu ce que j'avais sur le cœur. Et Léa Salamé, elle m'a gentiment dit un truc du genre, tu devrais faire de la télé, c'est dommage que tu t'enfermes sur Internet. Et vraiment, j'étais en mode, waouh! Ah ouais, d'accord. Ah, tu le vois comme ça, toi. D'accord, ok. Non, si tu veux, si tu veux. Et encore une fois, et je comprends. Et je comprends, genre, je ne veux pas du tout aller à Salamé. Elle a raison de me dire ça, de son point de vue à elle. J'en veux pas du tout. Voilà. Elle est au climax du média le plus diffusé en France, qui est la télévision. Elle est une des présentatrices stars de la télévision. Et donc le regard qu'elle doit porter sur des activités de ce que font les créateurs de contenu sur Internet, ça doit être un truc genre radio étudiante, tu vois. C'est un petit truc un peu... Enfin, c'est choupinet, quoi. Mais c'est un peu enfermé. Ça s'adresse pas à grand monde. C'est des communautés. Donc du coup, tu t'enfermes avec des gens qui pensent comme toi. Je peux pas lui en vouloir d'ailleurs de penser ça. Hein. Je reconnais qu'il y a aussi tout un aspect communautaire du web qui est très communautaire pour le coup. Mais du coup, vous qui me connaissez, vous voyez comment c'est rigolo que quelqu'un de la télé me dise tu t'as tort de t'enfermer sur Internet. Ouais, non, quand même. Ouais. Waouh. C'est là qu'on comprend des parcours comme Samuel Etienne, tu vois, qui part de la télé, il voit Internet, il fait waouh, mais en fait, c'est trop de la balle. Mais oui. Mais oui, Samuel. Ils sont déconnectés. Ah, mais moi, je suis autant déconnecté qu'eux. Je suis déconnecté de la télé. Par définition, parce que je reconnais ne pas la regarder. Je suis complètement déconnecté. C'est deux mondes parallèles. Ouais, c'est ça, c'est vraiment deux mondes parallèles. Et c'est deux mondes parallèles qui, à mon avis, ne... Et putain, je le redis parce que je l'ai toujours dit, mais je continue à le dire. La télé et Internet ne sont pas concurrents. Il n'y a pas de concurrence. On ne joue pas au même jeu. On n'est pas en... Backseat n'est pas une alternative aux émissions télé. Les émissions télé ne sont pas mieux ou moins bien qu'Internet. Ce sont des choses radicalement différentes. Complémentaires, peut-être. Elles sont complémentaires pour les gens qui regardent les deux. Elles peuvent se suffire à eux-mêmes pour les gens qui regardent soit l'un ou soit l'autre. C'est pas nécessairement complémentaire en soi. Mais c'est vraiment deux mondes parallèles, quoi. C'est comme la presse écrite et la radio. Y a pas de concurrence entre les deux. Et bah c'est pareil. Ils sont déconnectés de la réalité des Français. Oui, mais attention, parce que là aussi, moi, je pourrais très bien faire le petit con qui monte sur ses grands chevaux en disant, nous, Internet, on est connectés aux Français. Non, 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 on n'est pas plus connectés. Hein. Faut pas toutes les critiques parfaitement légitimes qui existent sur la télévision, etc. Ça fait maintenant des décennies qu'elles sont écrites, elles sont parfaitement valables. Il y a aussi tout un tas de critiques sur Internet, hein, son fonctionnement en bulle de filtre et tout. Attention. Hein. Faut pas. Moi, je suis pas plus connecté à la réalité du terrain du pays réel. Hein. Ce serait intéressant d'inviter Léa Salamé pour débattre de vos médias et de son rapport aux politiques. Faudrait trouver un angle intéressant, parce que juste débattre, ça n'a pas de sens. Encore une fois, on fait pas le même, on joue pas au même jeu. C'est quand même un footballeur et un basketteur pour débattre. Mais débattre de quoi? On fait pas le même sport. On s'en fout. Enfin, Plutôt chez Samuel, ce genre de choses. Bah, Samuel, lui, pour le coup, il a l'ambition d'essayer de croiser les mondes. Et c'est bien. De par son histoire, de par son parcours, il veut mettre en place dans son émission L'Hebdo Étienne, hein, justement, un système qui fasse rencontrer les mondes. Très bien. Moi, je trouve, bon, très bien. Ça a du sens. Éditorialement, c'est pas absurde. C'est cool. C'était jeudi ou vendredi l'enregistrement? C'était vendredi. J'ai été étonné de te voir dans cette émission, mais content que tu portes ta voix qui ressemble à la mienne. Ouais, mais c'est aussi ça le problème, c'est que moi je porte la voix de personne. Hein. Je suis pas le porte-parole. Ni d'Internet, ni de la jeunesse, ni de je sais pas quoi, ni de la gauche, ni de l'antiracisme. C'est aussi la difficulté et une des raisons pour lesquelles j'ai souvent refusé de participer à des débats dans des médias, c'est que moi je suis pas un débatteur, hein. Je défends pas un camp. Je vis ma vie, je fais mes trucs sur Internet. Je prétends pas être le porte-parole de qui que ce soit. Je veux bien parler de ce que je fais, je veux bien défendre ce que je fais. Je veux bien être le porte-parole de mon activité, voilà. Et donc forcément, bah tu regardes le dispositif de plateau hier, évidemment, n'importe qui, il allume sa télé, il avait l'impression que l'ultra-gauchiste de service, c'était Jean Massier. Ce qui devrait vous faire sourire. Évidemment, compte tenu du dispositif, c'est vraiment pas compliqué d'être de gauche. Suffit juste de dire que le racisme, c'est pas ouf. Mais bon. Tu penses quoi d'Éric Nolot? Je pense rien d'Éric Nolot, ça m'a... Enfin, Pareil, c'est un souvenir d'enfance, Éric Nolot. J'ai une époque chez Ruquier, je crois. Il était avec Zemmour à l'époque. Voilà, Éric Nolot, enfin, hier, il a présenté son nouveau bouquin qui est un pamphlet anti-Sandrine Rousseau. Enfin... Moi, enfin, clairement, encore une fois, c'est pas pour mettre sur un axe gauche-droite, etc., mais on voit bien la notion de panique morale. Sur un plateau comme celui que vous avez vu hier soir, où Marine Le Pen est défendue, littéralement défendue, par toute une partie du plateau, contre un petit mec en sweat qui vient en disant moi sur ma chaîne à moi, pas ouf. Et ensuite, t'as Éric Nolot qui te vend un pamphlet anti-Sandrine Rousseau en la présentant comme. Enfin, d'ailleurs, j'ai même besoin d'exagérer, il le dit lui-même, comme une soviétique, le couteau entre les dents qui va émasculer les hommes. En frappant à la porte chez eux, quoi. Moi, j'avais vraiment la mâchoire qui se décrochait à ce moment-là. De toute façon, j'étais sonné. Hein. 3h30 d'enregistrement. Je disais, ah ouais, mais putain. Sandrine Rousseau représente un danger. Ah ouais. Oh, d'accord. Pourquoi on donne la parole à des gens qui paniquent? Non, non, mais encore une fois, c'est des choix éditoriaux. Moi, ça me regarde pas. De toute évidence, enfin, c'est le principe du cordon sanitaire. C'est-à-dire que moi, du coup, je passe pour le gauchiste de service, évidemment, parce que moi, je mets un cordon sanitaire au niveau de la discrimination. Et eux mettent un cordon sanitaire au niveau de l'antiracisme. Forcément. Je pense que quand ils vont voir que j'ai invité Sandrine Rousseau sur mon plateau, ils vont être scandalisés. C'est intolérable. C'est un danger pour la République. Merci PTR2D2 pour les 10 subs offerts au chat. Dis donc, 10 subs offerts au chat, c'est super généreux. Merci beaucoup.
Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup. Merci, merci. La punchline, vous contribuez plus que nous à la montée du RN, m'a fait halluciner. Bah, mets-toi à ma place. Non, mais mettez-vous à ma place 2 minutes. 2 minutes, hein. Je suis sur un plateau, dans mon angle de vision, j'ai Eric Nolot, Christophe Barbier, Sonia Mabrouk. Et les trois qui me regardent et qui me disent, c'est vous qui vous faites plus monter le RN que nous. Vous rendez compte la dissonance cognitive que ça a fait dans mon cerveau à ce moment-là? Moi, je l'ai très très mal vécu ce moment. J'ai fait, mais c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas accepter qu'une bande de sexagénaires se tourne vers le youtubeur du plateau en lui reprochant, parce qu'il refuse d'inviter le RN, de faire monter le RN, alors que t'as le pote d'Éric Zemmour. Christophe Barbier, je lui ferai pas le procès de faire monter le RN. Et Sonia Mabrouk. Europe 1, Bolloré, tout ça, je vous fais pas la liste. Enfin, condamné par la justice, quand même, pour avoir trop mis en avant l'extrême droite. Enfin, je vais pas vous faire un tableau. Je veux bien, mais. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Alors, je sais plus avec qui j'en parlais. Avec qui j'en parlais? Ah, bah tiens, je parlais avec Cécile Duflot. Alors, évidemment, après l'émission avec Cécile Duflot, on échangeait des textos en mode PTSD. Ça va, toi? Et je sais plus, on discutait, on disait, ouais, en fait, je leur renvoie un miroir qui est horrible. Parce que moi, en refusant de recevoir le RN, en mettant le cordon sanitaire, je leur renvoie le fait que eux l'ont abandonné, ce cordon sanitaire. Donc, du coup, évidemment, je me doute que ça leur plaît pas. C'était qui l'autre nana à côté de toi et du Flo? J'ai oublié son nom, mais c'était la directrice de la rédaction de L'Express. Ah, Anne Rosencher, ouais, c'est ça, Anne Rosencher. Ouais. C'était quoi le but de l'émission? Je ne sais pas. J'en reviens à ça. Je ne sais pas. C'est pour ça que je ne me permets pas de critiquer cette émission. Étant moi-même producteur d'émissions, je sais ce que c'est que produire des émissions, les fabriquer, penser à un public, à ce qu'on va leur apporter, pourquoi, comment, créer un dispositif qui réponde à ses besoins. Là, l'émission, elle a été créée par des gens qui font un autre métier que le mien, que je ne comprends pas, qui s'adressent à un public qui n'est pas le public auquel j'ai l'habitude de m'habituer, auquel j'ai l'habitude de m'adresser et auquel je ne cherche pas particulièrement à m'adresser. Donc, voilà. En plus, il y avait un mec dans le public qui faisait des blagues. Ça, je comprenais pas non plus. Paul de Saint-Cernin, c'est ça? Paul de Saint-Cernin, dans le public. Il faisait des blagues de temps en temps. Je comprenais pas. Je voyais pas le. Bon. À la limite, why not, encore une fois. Et Christophe de Chavannes aussi, qui était là probablement pour apporter une soupape de décompression. En fait, j'ai pas, je, encore une fois, voilà, je comprends pas, mais c'est parce que je sais pas faire. Les applaudissements du public toutes les 4 minutes, ça crée un rythme que moi je trouve absolument insupportable. Mais encore une fois, je le redis, moi je suis sur Internet. Eux, ils sont à la télévision c'est un rythme différent, c'est une grammaire différente, c'est un fonctionnement différent, ça ne marche pas de la même manière. Donc pour une raison que j'ignore, ils ont besoin de faire applaudir le public toutes les 2 blagues et demie, quitte à couper la parole à quelqu'un dans son explication, ce qui est moi le summum du truc qui m'insupporte le plus. Mais apparemment c'est ça qui est attendu. Du coup c'est pour ça qu'il faut concentrer au maximum ses analyses et ce qu'on a envie de dire, tu peux pas rentrer dans une explication. Le principe de coupage de parole, c'est un code en soi de la télévision que je comprends pas, mais qui apparemment a du sens. Pourquoi t'as choisi d'accepter du coup? Par naïveté, par naïveté. Non, non, mais par naïveté, je vous le redis, hein. J'y suis allé sans connaître l'émission. J'y suis allé sans connaître. J'y suis allé parce que je veux pas être sectaire, je veux pas m'enfermer, je veux pas refuser par principe. Et donc, de la même manière que Squeezie, il faut qu'il lise les tribunes avant de les signer, moi, il faut que je regarde les émissions avant d'y aller. T'y retournerais? Non. Non, non, non. Mais non, non. Mais non. Mais non, je vais pas y retourner. Enfin, c'est bon, j'ai vu. Ça, c'est bon, j'ai compris. Enfin, je n'ai rien à apporter à ce type d'émission. Non, mais en plus, enfin, moi, je m'étais fait la promesse d'arrêter de faire de la télé. J'ai pas le temps de faire de la télé. Ça rapporte rien. C'est très mal payé. Là, c'était pas payé hier. Hein. J'étais invité. Évidemment, personne n'était payé autour du plateau, je vous rassure. Oh, sauf peut-être de Chavannes et celui qui faisait des blagues à la fin. Mais moi, je peux pas me payer le luxe de claquer une demi-journée pour parler 4 minutes dans un tournage de 3h30 pour m'adresser à des personnes de plus de 60 ans. J'ai du travail, je dois produire des émissions, j'ai des streams à faire, j'ai des projets à monter. Je suis désolé. Je suis désolé, j'ai pas encore le don d'ubiquité. C'est quoi le pire, refuser par principe ou accepter par négligence? C'est une bonne question. Je pense que refuser par principe, ça reste pire. C'est pour ça que je continuerai. Vous allez continuer à me voir faire des trucs bizarres, hein. Parce que je me connais, je suis incapable de refuser, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de tenter. Des trucs que j'ai jamais fait, j'ai envie de voir, j'ai envie de m'y essayer, j'ai envie de... Voilà. En vrai, Click, ce serait une bonne émission pour toi. Je suis déjà allé sur Click. Je suis déjà allé sur Click, bien sûr. Ça te fait connaître des politiques aussi un peu. J'ai plus trop besoin de ça maintenant. A priori, c'est bon. Non, par contre, oui, effectivement, encore une fois, je vous le redis, la télévision, que ça vous fasse plaisir ou non, c'est le média numéro un dans ce pays. Donc, ça implique beaucoup de choses dans le champ politique et médiatique. Et donc, quand on a la prétention comme moi de produire des émissions fût-ce sur Internet, je me dois de me tenir mieux au courant de la télévision, de son fonctionnement, de ses évolutions, etc. On n'est pas à l'abri qu'un jour Baxit atterrisse à la télévision. Tu vas vraiment finir par sortir du champ républicain. J'ai du mal à croire que tu connaisses si mal la télé. En tout cas, je la regarde pas. Si, je connais la télé par son fonctionnement. Je connais la télé par des initiatives comme France TV Slash, France Info. J'étais sur LCI, mais c'était il y a des années. Mais je regarde pas la télé, en fait. J'arrête pas de confondre C'est à vous, c'est ce soir, c'est politique. À chaque fois, je confonds les émissions. Maintenant, si c'est bon, C'est à vous, c'est ce soir, j'ai fini par faire la différence entre les deux. Ça, c'est bon. Parce que Karim Rissouli, quand même. Parce que c'est une très bonne émission, C'est ce soir. C'est à vous, du coup, j'y suis allé sur le plateau, donc maintenant, c'est bon, je vois ce que c'est, je connais. C'est politique, je sais toujours pas ce que c'est. Enfin, il suffirait que je voie une image pour me rendre compte de ce que c'est. C'est dans l'air. Ah oui, il y a C'est dans l'air aussi. Non, mais évidemment, oui, non, quand je dis que je connais pas la télé, c'est parce qu'en fait, j'en connais pas les acteurs. Voilà, mais effectivement, oui, si, je sais qui est Pascal Praud, je sais qui est. Comment il s'appelle Cyril Hanouna, C8, Bolloré, ça c'est bon, ça c'est non mais si c'est bon, je suis pas complètement débile non plus. Cécile Duflot, ça je connais cette émission, Cécile Duflot, ouais, sur France 5. Ouais. C'est le service public que tu connais pas en fait. Bah si, il y a France TV Slash, c'est vachement bien France TV Slash. Et c'est ce soir, c'est à vous. Et du coup, il y a quelle époque maintenant je connais? Il n'y avait pas une émission qui s'appelait L'événement? Il n'y avait pas un truc politique qui s'était censé s'appeler L'événement? Ça existe ce truc? Avec Caroline Roux. D'accord. Je vois à quoi ressemble Caroline Roux. C'est le jeudi. Ah oui, non, mais voilà. Non, mais... Ah oui, non, mais oui, c'est jeudi. Mais oui, c'est le jeudi. Bah oui, mais jeudi, il y a Baxit. Désolé, excusez-moi, le jeudi, il y a Baxit. Moi, j'ai du boulot. Il y a Quotidien sur TMC, ça, je sais. Grand Journal, Canal+, tout ça, Bolloré. Mais non, si, c'est bon, quand même. C'est quelle émission que tu as faite? J'ai fait une émission qui s'appelle Quelle époque? Qui, si j'ai bien compris, est une émission hebdomadaire diffusée le samedi soir, en deuxième partie de soirée, c'est ça? Quotidien, c'est pas du tout Bolloré. Mais non, justement, Quotidien, c'est sur TMC parce que Yann Barthès a quitté le Grand Journal, enfin son émission qui s'appelait Le Petit Journal. Qui avant était une chronique dans Le Grand Journal. Entre-temps, Canal+ a été racheté par Bolloré. Oui, non, c'est ça. Non, non, TMC, c'est TF1. TMC, c'est le groupe TF1. Donc, c'est Martin Bouygues. Non, non, mais ça va, je pas. Je connais. Enfin, je connais. Incapable de vous citer le nom d'une seule autre émission de TMC que Quotidien. Hein. D'après Médiamétrie, tu as fait 1,14 million de viewers. Ben c'est bien, c'est autant que la dernière vidéo de Villebrequin. Autant dire que personne ne sait ce qu'est Villebrequin à la télé, mais bon. C'est quoi ton objectif en y allant faire de la promo? Je sais pas. Je sais pas quel est mon objectif en y allant. C'est toujours le même problème, c'est que à chaque fois c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai accepté? Est-ce que je suis en train de rendre service à des téléspectateurs? Je pense pas. Est-ce que j'y vais par cynisme? Sans doute. Pour aller me montrer. Dans les petits cercles parisiens qui pourront éventuellement un jour être utiles à Baxit. Je pense que c'est ça. Faire des contacts, ouais, c'est ça. Vous savez, c'est le drame de la télé, hein. Ils n'ont pas d'audience, mais ils ont du pognon, hein. Le pognon va bientôt, enfin, est en train de passer de la télé au web. Enfin, vous le voyez bien. Hein. Vous voyez bien le financement, les projets, Baxit, le GP Explorer, Popcorn Festival. Donc, il faut en être. Ils ont de l'audience quand même. Oui, ils ont de l'audience. Attention. Pardon, excusez-moi. Ils n'ont pas la même audience que nous. Non, non, il faut pas. Encore une fois, toujours pareil, Internet et la télévision ne sont pas concurrents. On s'adresse juste pas au même public. La télé a un public de plus de 60 ans en moyenne qui vieillit d'un an tous les ans. Moi, j'ai un public qui a 24 ans en moyenne. Donc, on s'adresse pas aux mêmes personnes. C'est pas grave. Et je n'ai absolument rien contre les sexagénaires, vraiment. Mais je ne souhaite pas particulièrement m'adresser à eux. C'est pas grave. Non, la composition du plateau pour une émission qui, en plus, se veut globalement ouverte, c'est un peu inquiétant. Je sais pas si l'émission se veut ouverte, je ne sais pas. Je fais pas partie de l'équipe éditoriale de quelle époque, hein. J'ai été invité en plateau. Je sais pas quelle est l'ambition éditoriale de cette émission. Je sais pas à qui ils veulent s'adresser. Je sais pas ce qu'ils veulent leur faire passer comme message, ce qu'ils veulent leur dire. Je sais pas. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a des octogénaires dans la salle ? J'ai 53 ans, je peux rester quand même. Ouais, tu peux rester. Non, mais on s'en fout. Mais je vous dis juste, la moyenne d'âge de mon public à moi, c'est 24. C'est une donnée, c'est comme ça. J'ai une question, ou plutôt un cas de conscience. Je vais acheter une maison et me marier bientôt. J'ai l'impression de renier mes idéaux de gauche et devenir un bourgeois, ça fait bizarre. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Parce que tu sais, être de gauche, il paraît, hein. Il paraît. Il y a des gens de gauche qui m'ont dit que c'est faire le vœu de tristesse et de malheur et de pauvreté. Ouais. Alors, t'as pas le droit d'être heureux, hein. C'est interdit à gauche d'être heureux. Tu dois tirer la tronche. Le bonheur est une connerie bourgeoise. N'oubliez jamais ça. Le plaisir, pareil. Le plaisir, c'est une connerie bourgeoise. Ouais. C'est comme la CGT, hein. La CGT, quand ils obtiennent des augmentations de salaire dans des négociations, ils démissionnent dans la foulée de la CGT. Bah oui, parce qu'ils ont augmenté les salaires. Ouais. Du coup, ils sont plus riches qu'avant. Du coup, ils sont embourgeoisés. Voilà. Vœu de pauvreté. Vraie personne de gauche est seule, pauvre et en dépression. Exactement. Donc tous les catholiques sont de gauche. Qui est-ce qui avait dit le marxisme c'est une version dégénérée de l'évangile? Je sais plus qui avait dit ça, un auteur. Le marxisme c'est une version dégénérée de l'évangile. C'est un peu Saint François qui est parti en couille. Je crois que c'est ça. Saint François passé à la moulinette de 2 siècles d'histoire et de culpabilité chrétienne qui a donné naissance au marxisme. Je me sentais pas légitime et merci pour la mise en perspective. Mais putain, je sais pas, j'en sais rien. Chacun vaut midi à sa porte. Je sais pas ce que ça veut dire être de gauche pour toi. Si te marier, être propriétaire du lieu où tu habites, c'est une entorse à tes idéaux de gauche. Je t'invite à revoir ce que sont tes idéaux de gauche parce que ça m'inquiète vraiment pour toi. Comment tu connais l'âge moyen de ton audience? Parce que j'ai fait une enquête sociologique sur mon audience y a quelques années maintenant. Puis on a fait plein de sondages, plein de fois. Le mariage, c'est de droite. L'amour est une connerie bourgeoise. Cette citation, l'amour est une connerie bourgeoise, ça vient d'un bouquin qui racontait mai 68, les années Mao. Enfin, tu sais, le. Ces années-là. Et c'est une histoire vraie d'une nana qui témoigne en disant que dans la fougue de l'année 1969, l'année érotique, c'est une étudiante dans le quartier latin qui déclare sa flamme à un militant de gauche 68ard. Et le militant lui répond: l'amour est une connerie bourgeoise. Donc il a refusé ses avances pour se consacrer tout entier à la révolution. L'histoire ne dit pas, c'est une histoire vraie, c'est un témoignage dans un livre. L'histoire ne dit pas ce qu'est devenu ce jeune étudiant de 68. Je pense que dans les années 80, il s'est acheté une maison, une Golf, une Volkswagen Golf. Il a fait 3 enfants, et aujourd'hui, il doit habiter sur la Côte d'Azur et voter RN. Je pense. Ou Macron, ouais, mais non, peut-être pas Irène, faut pas déconner, mais Macron. Lui, il a pris le tournant de la rigueur en plein dans la gueule, et puis il a dit non, mais c'est un peu. Enfin, avant de partager les richesses, faut les créer. Et à mon avis, il a deux, trois paniques morales. Ouais, Cohn Bendit, ouais. Ah, Cohn Bendit, non, Cohn Bendit, il a quand même été écolo entre-temps, arrêtez. Bah, Cohn Bendit, il a pas fait sa vie dans le privé. Est-ce que Cécile Duflot a dévoilé son salaire hier comme l'exigeait Olivia Grégoire? Le salaire de Cécile Duflot, il est sur le site d'Oxfam. Genre, c'est compliqué de faire plus transparent. Voilà. C'est écrit. Écolo, ouais, mais sans colonne vertébrale, il avait une vague idée de la nature au plus. Eh bah, tu lui expliqueras, toi qui la connais mieux que lui. Enfin bref, on va pas se... Voilà. On va pas se flageller. C'est pas grave, c'était une émission de télévision. J'espère que vos parents ont apprécié cette émission. Ce flageolet. Putain, faut que je bouffe moi aussi. T'as répondu à pourquoi t'y allais? Oui, j'ai répondu plusieurs fois, ouais. Ça va quand même les retours Twitter? Bon, c'est Twitter, quoi. Elle a déjà fait l'émission? Oui, elle a été diffusée hier soir. Mais c'est encore une fois, hein, c'est pas très grave. C'est une émission qui elle dure combien? Elle dure 2h30, je crois. Plus, je sais plus. J'ai dû parler 4 minutes à tout casser. Et encore 3 minutes, peut-être. J'aime cette émission, tout comme les émissions de Jean Massier. Je suis client des deux. Eh bah, très bien. Super. Non, mais vraiment, hein, sincèrement. Sincèrement, hein, moi, encore une fois, sûrement pas la prétention. C'est ce que je disais à Sonia Mabrouk. J'ai pas la prétention de vous donner des leçons en matière éditoriale. Démerdez-vous, faites vos émissions, faites vos médias dans votre coin. Pas obligé de se copier les uns les autres non plus, hein. J'espère que t'étais propre en y allant. Oui, j'avais pris une douche. Parisienne. J'en ai repris une en rentrant chez moi. C'est vrai, j'ai trouvé que Léa avait tendance à te laisser deux mots et hop, elle passait vite à un autre. Mais ça, c'est encore une fois, c'est une question de rythme. La télévision a un rythme éditorial spécifique, c'est une grammaire particulière, c'est un tempo, c'est une manière de faire qui du coup implique des comportements d'acteurs, mais c'est d'où le ton de télé, d'où plein de trucs, bref. Mais effectivement, la télévision a un rythme très particulier, il y a des applaudissements du public toutes les 4 minutes dès qu'il y a une blagounette qui est faite. C'est très particulier. Le coupage de parole et tout, c'est spécifique à la télé. C'est une manière de faire. Bon, bah écoute. C'est le passé, la télé. C'est pas le passé du tout, la télé, c'est le présent. Hein. La télé est très largement le média dominant en termes d'audience. Et encore une fois, il faut rentrer dans le détail. C'est pas juste le nombre de téléspectateurs qu'il faut regarder, c'est leur sociologie et leur âge, notamment leur âge. T'as remarqué des différences de traitement entre toi et les autres? Non. Non, d'ailleurs, j'ai remercié Léa Salamé pour ça. Léa Salamé elle m'a pas présenté comme le petit con d'Internet, ce qu'elle aurait pu faire. On en a vu d'autres le faire, avoir du mépris, etc., vis-à-vis des gens qui viennent d'Internet. C'était pas le cas de Léa Salamé, elle m'a pas présenté comme ça. Donc d'ailleurs, je l'ai remercié. Je lui ai dit, c'est gentil de pas être tombé dans ce piège-là. Est-ce que t'avais des cacahuètes dans les loges? Non, mais j'ai mangé un Kit Kat, j'ai bu un Coca, j'ai mangé une banane, j'ai mangé des noix de cajou avec Frédéric Dabi. J'adore Frédéric Dabi. On s'était croisés il y a longtemps sur le plateau d'LCI. Je sais pas, je l'aime bien Frédéric Dabi, je crois qu'il m'aime bien aussi. Ça fait quoi de voir des personnes que tu voyais enfant? Bah, je te disais, ça fait bizarre, surtout quand tu croyais qu'ils étaient morts, quoi. Qu'en fait, ils y sont pas morts, tu te retrouves sur un plateau avec eux, ça fait bizarre. Mais ouais, non, carrément. Christophe Barbier, Eric Nolot. De Chavannes. C'est des souvenirs d'enfance. Jean-Michel Apathy. T'as quel âge au juste? J'ai 34 ans, moi. Ah non, mais en plus, c'est marrant parce que c'est des vieux, mais moi, je suis plus, je suis, je fais partie des vieux de Twitch, hein. Moi, j'appartiens à la deuxième génération de streamers, je crois. Ouais, 2015, c'est à peu près la deuxième. Moi, deux ou troisième. Aujourd'hui, on avait calculé avec, je sais plus qui, on est à la huitième ou la neuvième génération sur Twitch. Donc moi, je suis un ancien de Twitch. Et voilà, et De Chavannes était déjà à la télé quand je suis né. El Kabash était déjà à la télé quand mon père est né. Voilà. Qu'est-ce que tu considères comme une génération? Non, ce qu'on appelle une génération, c'est à partir de quel moment les gens se sont mis à utiliser une plateforme ou à diffuser dessus. Quand on parle de la première génération des vulgarisateurs sur YouTube, on parle du fossoyeur de films, on parle de Nota Bene, on parle de Y Penser, etc. Ensuite, il y a une deuxième génération qui est arrivée un tout petit peu après avec des. Manon Bril, putain, je cherchais. Mathieu Sommet, ouais, tu vois. JDG, c'est la première génération des vidéastes jeux vidéo. Sur Internet, d'une manière générale, avant même que YouTube existe, tu vois. Docteur Nozman, ouais, vous voyez, c'est ça que j'appelle des générations. Et après, bon, bah, y a des vagues de gens qui se lancent à des époques en raison de contexte. Tu vois, sur Twitch, il y a eu toute la vague du Covid, par exemple. Il y a eu la vague 2020, 2021. Il y a toute une génération. Et la première génération des streamers en France, bah, ça a beaucoup été Oleb TV, mais c'était aussi des Zerator et tout. Merci David! Merci David Dufresne, bonjour le raid, bienvenue. Donc voilà, donc il y a des générations de streamers. Et moi, je fais partie des early gen. Et les next gen, bah, je sais pas, je les regarde pas. Ils ont 16 ans, 17 ans. Bonjour, le raid de David Dufresne, bienvenue. On était en train de. Non, mais en fait, on est dimanche, on papote. On est plus ou moins en train de débriefer l'émission d'hier soir dans laquelle j'étais invité, qui s'appelle Quelle époque, qui est diffusée à la télévision sur une chaîne qui s'appelle France 2. Le 2 étant une référence au chiffre 2 sur lequel il fallait, à l'époque, appuyer avec le bouton de sa télécommande pour arriver sur cette chaîne-là. Ça vient de là, le 2 de France 2. On débriefe la messe de ce matin, ouais, c'est ça. C'est quoi une télécommande? C'était l'espèce de boîtier avec des touches en caoutchouc sur lequel tu appuyais avec ton pouce ou ton index pour naviguer sur les différents canaux qui étaient proposés à la télévision. Ça existe toujours, hein. Aujourd'hui, on s'en sert surtout pour allumer la télévision et pour switcher le channel entre la Xbox et la Switch. Mais si vous regardez bien sur la télécommande de votre téléviseur, vous verrez, il y a des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas fait pour téléphoner, c'est fait pour. À l'époque, c'était fait pour sélectionner les chaînes qu'on regardait. Ça servait à ça. Chaque chaîne avait un numéro. Et vous retrouvez ça, du coup, dans certains noms de chaînes qui ont gardé comme hommage à l'époque. TF1, par exemple, c'était la chaîne numéro 1, France 2, France 3. Il y avait France 5, c'était sur la chaîne numéro 5, M6, c'était sur la 6. Et après, les autres, c'est arrivé plus tard avec les TNT, donc c'est pour ça qu'ils ont un peu supprimé les numéros, c'était devenu un peu plus compliqué. Mais ne vous faites pas tromper par France 4, c'était pas la chaîne numéro 4. Chaîne numéro 4, c'était une autre chaîne qui s'appelait Canal+, qui avait un modèle économique différent des autres, parce que c'était une télévision à péage, il fallait payer un abonnement, avoir un décodeur. Bref, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, c'était au siècle dernier. Ça a l'air compliqué ton truc. Ah non, mais c'était compliqué à l'époque, hein. C'était très compliqué. Fallait pas entrer l'adresse IP manuellement. Non, non, non. Ça, c'est arrivé plus tard avec Internet où on avait des URL qui étaient plus pratiques parce qu'il suffisait de cliquer pour naviguer de lien en lien et pour arriver sur des contenus, notamment audiovisuels, mais pas seulement. Jean Massier en tendance Twitter. Non, ça c'était tendance perso à toi. Si, si, en 30e. Oh merde. Laissez-moi regarder. Ouais, bah effectivement, c'est un raid de l'extrême droite. Ouais, il y a de l'antisémitisme, il y a de l'homophobie. Ouais. Et je me fais traiter d'intolérant, évidemment, mais ça. Parce qu'on a le sens de l'humour. Twitter. Ouais, Twitter. Enfin, c'est particulièrement, c'est un raid de l'extrême droite sur Twitter, oui. C'est spécifique. Oh, je vais passer un bon dimanche, moi, tiens. Ça va me faire plaisir. Pouet, pouet, pouet. C'est pas grave, on va jouer aux jeux vidéo, ça va nous faire du bien. Intolérant au lactose. Oui, je suis intolérant au lactose, ouais. Et au racisme. Mais c'est terrible, hein, cette intolérance. Je sais pas d'où ça me vient. Comment ça se fait qu'on ait fabriqué une génération d'intolérants comme ça? Je pense que j'en veux beaucoup à mes parents. Parce que quand j'étais petit, ils m'ont montré la finale de la Coupe du Monde France 98, où il y avait des blacks, des blancs et des beurs qui mettaient des buts et qui donnaient sa première Coupe du Monde au pays. Merci DV8 pour les 5 subs offerts au chat. Après, il y avait des humoristes que j'aimais bien. C'était Eric et Ramzy. Il y avait Omar et Fred. Il y avait Élie et Dieudonné. Il y avait Jamel Debbouze. Ouais, tout ça, c'est l'intolérance. Hein. Il y avait quoi d'autre? Élie Kakou, ouais. Gad Elmaleh. Anthony Cavana. Kev Adams, non, Kev Adams, c'est arrivé bien plus tard. Non, je te parle de ma jeunesse. Comment est-ce que je suis devenu intolérant comme ça? Pourquoi est-ce que je suis devenu aussi intolérant? Je sais pas. Non, puis surtout, moi, quand j'étais... ah ouais, ah non, ouais, en même temps, mes parents, ils ont déconné, parce que quand j'étais petit... Ça c'était une erreur de leur part. Hein. Quand j'étais petit, j'étais à l'école publique. À l'école primaire. Et du coup... Oula, pourquoi ça rame, là? Malikoum, ça rame? Non, c'est bon. Ça va, ça rame plus. Et du coup, c'est une histoire vraie. Hein. Quand j'étais à l'école publique, je m'en souviens très bien. En CM1. Ouais, c'est ça. Non, CE1, CE2 même. Mes deux meilleurs copains, avec qui on jouait dans la cour de récré, on jouait au Pog, on jouait au Transformer, on jouait aux billes, on jouait au foot. On faisait plein de trucs. Ils s'appelaient David et Ahmed. David, il était juif. Moi, j'étais catho. Et Ahmed, il était rebeu. Il était musulman, pardon. Oula. Et c'est pas une blague, hein. Quand j'y repense, c'était vraiment le cliché. C'était David, Ahmed et Jean, c'était les trois copains. Alors là, je vous ai dit, il y en avait un qui était juif, un qui était musulman, un qui était catho. En fait, on n'était aucun des trois, hein. On était juste des entraîneurs Pokémon. Nos parents, peut-être qu'ils croyaient en Dieu, des trucs comme ça, mais nous. Nous, on s'engueulait pas sur Yahvé, Mahomet ou Jésus, hein. On s'engueulait sur Bulbizarre, Carapuce ou Salamèche. C'était le seul débat. Et voilà. Bon, heureusement, mes parents, il y a un moment, ils ont un peu arrêté les conneries parce que je commençais vraiment à devenir un peu trop intolérant. Hein. Je commençais vraiment à devenir un peu trop intolérant, là, à traîner avec des musulmans et des juifs. Donc du coup, ils m'ont sorti de l'école publique pour me mettre dans le privé. Où là, pour le coup, il n'y avait plus que des catholiques. Il y avait la messe, il y avait une chapelle dans la cour de récré de l'école où ils m'ont mis. Il y avait une chapelle, ouais, une chapelle dans la cour de récré. Et là, pour le coup, là effectivement, ça m'a rendu plus tolérant. Ça m'a rendu plus tolérant puisque je me suis mis à fréquenter. Il y avait que des blancs dans ma classe. Il y avait des Charles-Henri, des César, des Jules. Non, ça a quand même pas mal aidé à. Donc il y a eu un moment quand même où mes parents ont essayé de me rendre plus tolérant, mais je suis retombé dans l'intolérance après, plus tard. La musique, les jeux vidéo et tout, la culture web, les films, le cinéma et tout, j'ai commencé à retomber dans des travers. Ouais, il y avait le rap, ouais, moi j'étais petit, fin années 90, c'était les grands moments d'IAM et d'NTM. Donc ce qu'on appelle le hip-hop, les cultures urbaines. Puis il y avait le rock aussi, et puis il y avait... Et ouais, non. Et là, je suis retombé dans l'intolérance crasse. Je me souviens, j'étais très intolérant quand j'étais petit. J'aimais pas le racisme, j'aimais pas l'antisémitisme, j'aimais pas l'homophobie, j'aimais pas la misogynie, je comprenais pas. Ouais. Ça m'a rendu très intolérant. Et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, ça fabrique. Voilà, j'ai 34 ans. Je suis un parangon de l'intolérance sur Internet, incapable d'avoir un débat serein avec des démocrates. Avec des démocrates comme Marine Le Pen, comme Éric Zemmour. Voilà. Faudra qu'un jour on fasse l'analyse de cette génération d'intolérants qu'on a fabriquée. Du coup, je comprends pourquoi les gens voient dans les mecs comme moi un danger absolu pour la démocratie. Je pense que c'est une menace, effectivement. Les ravages du vivre ensemble, ouais. Ouais. Je me souviens quand j'étais au collège, j'ai fait un an en pension dans un internat. Alors là aussi, mes parents, ils ont voulu bien faire, ils m'ont envoyé dans un internat avec uniforme, machin. Pas particulièrement catho, mais uniforme quand même. Et il y avait un pote dans ma chambre, on était dans des dortoirs, dans ma chambre, il y avait un pote musulman, trop sympa, il s'appelait Samir. Super bon pote. Et Samir, il déroulait son tapis de prière une fois par jour, tranquillement, le soir. Pendant un espèce de temps un peu calme et tout, il déroulait son tapis de prière pour prier tranquillement. Sauf que c'était interdit de prier dans les dortoirs. Je sais pas pourquoi, le règlement intérieur, j'en sais rien, je m'en fous. Mais du coup, il m'avait appris à faire bélec. Bélec en arabe, ça veut dire attention. Donc, je sais pas si je connais pas très bien la conjugaison, hein, mais en tout cas, le souvenir que j'en ai, c'est Samir qui me dit bélec, ça veut dire attention. Donc, tu te mets dans l'angle de vue du couloir et si tu vois le surveillant arriver, tu me dis Bélec, Bélec. Comme ça, il roulait son tapis, et il le planquait sous le lit, et il faisait l'air de rien, il s'asseyait sur son lit et tout. Donc ça aussi, c'est ça, mes parents, ils étaient super sympas, Samir. Et ça, là aussi, mes parents, ils m'ont. C'est ce genre de moment d'intolérance pure, tu vois. C'est le jeune catholique qui fait Bélec pour que son pote musulman puisse prier peinard tranquillement. Terrible. T'étais chouf. Ouais, j'étais chouf. Oui, c'est vrai. Ça me dit. Ouais, c'est ça. Non, mais en plus, c'est une anecdote vraie, hein, ce que je suis en train de vous raconter. C'est vraiment une anecdote vraie. Samir, il me disait chouf, genre, fais bélec. Je me souviens de Samir qui me disait ça. Chouf, fais bélec. T'arrives encore à endormir? Je sais pas, je suis devenu très intolérant. Non, mais enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a déconné à plein tube, hein. Moi, je pense que je suis un symbole d'une génération ratée qui s'est mis à aimer la République plus que la France. Enfin, la France, au sens où on me l'a vendu dans le privé catho, hein, c'est-à-dire son roman. Son âme supérieure à celle aux âmes des autres nations, et surtout des autres couleurs et des autres cultures, tout ça, tout ça. Non, parce que, à l'âge de 17 ans, j'ai découvert l'associatif. Alors, tu te rends compte, l'associatif. Ça aussi. Le summum de l'intolérance. Je me suis mis à défendre la liberté de la presse, je me suis mis à défendre la liberté d'expression des jeunes, je me suis mis à défendre la liberté d'association des jeunes, les assos étudiantes. Alors que j'aurais pu avoir et quand j'y pense, j'aurais pu avoir un chemin de tolérance. J'aurais pu avoir un chemin de tolérance qui serait passé par sans doute une prépa, une école de commerce. Et aujourd'hui, je ferais du contrôle de gestion dans une banque. Et au lieu de ça, voilà, je me suis mis à défendre l'intolérance, tous ces délires autour de la démocratie, autour du débat public, de la place des jeunes. Au lieu de ça, t'es dilaté. Ah ouais, je suis dilaté, ouais. Ah, les renflements bruns, ouais, on est dessus, ouais. T'aurais dû faire le SNU si t'avais quelques années de moins. Ah ben, je pense que le SNU a été créé justement pour éviter que. Moi, je suis la génération sacrifiée. Justement, pour éviter qu'il y en ait d'autres qui vrillent dans l'intolérance comme moi, on a fabriqué, on a créé le dispositif du SNU. C'est quoi l'histoire? Les tolérances sont les nouveaux intolérants, c'est ça? Bah oui. Bah oui. Parce que. Vous avez peut-être pas suivi, mais en fait, le racisme. Vous savez, on vous a appris à l'école que le racisme, c'est pas bien. Mais aujourd'hui, en fait, il faut bien que vous compreniez, c'est important que vous le compreniez, que le racisme aujourd'hui, c'est les antiracistes qui sont racistes, en fait. C'est plus comme oublier hein, tous ces vieux trucs-là de années 90, SOS racisme, la LICRA et tout, vous oubliez. Ce qui est dangereux pour la démocratie et la République, c'est les gens qui défendent les valeurs de la République. Voilà. Ah non, mais prenez des notes parce que c'est pas facile. Je vois bien qu'il y en a parmi vous qui vous êtes un peu perdu. Je vous sens un peu perdu. Vous avez l'impression que. Ah, non, vous êtes un peu paumé. Je suis complètement perdu. Non, mais je vois bien. Mais en fait, alors ça aussi, ça, c'est un problème que vous avez, les gars. Et ça vous rend intolérant. Hein. C'est vous regardez pas assez la télévision. Si vous regardiez un peu plus la télévision, vous auriez conscience de ce genre de truc. Parce que là, je suis en train de vous dire des banalités. Hein. Voilà, c'est un peu connu. Le principal risque pour l'avenir de la démocratie et de la République, c'est Sandrine Rousseau. D'accord? C'est pas Éric Zemmour ou Marine Le Pen. C'est Sandrine Rousseau. Elle, c'est un danger quasi vital. D'accord? Prenez des notes, hein, sans déconner. Là, je sens encore qu'il y en a deux, trois qui vont se perdre. D'accord? Ce qui tue l'économie française, c'est des immigrés qui envoient un peu d'argent au pays pour soutenir la maman. Ça, c'est un danger vital. Ça, c'est un danger grave qui déséquilibre grandement les caisses de solidarité. OK? C'est pas toi le principal danger? Bah si, justement, mais... Comme je suis un danger, j'essaye de faire amende honorable. Visiblement, j'ai de l'influence sur les jeunes, donc j'essaye de vous empêcher de tomber dans des travers dans lesquels je suis tombé moi, des travers d'intolérance, d'absence de sens démocratique. Parce que si vous continuez sur cette pente glissante là, vous allez refuser le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, la misogynie. Enfin voilà, moi je mets en garde contre un danger grave pour la démocratie que toute une génération se mette à défendre des idéaux, l'idée que le racisme c'est pas bien, que le dialogue entre les cultures, entre les peuples, machin. Non, mais. Voilà. Donc faites attention les jeunes. Non, j'allais faire un point Godwin, mais on va arrêter parce que là, j'ai l'impression que vous avez compris la blague. Faites votre SNU, ouais. C'est marrant, c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. C'était quoi la blague? Mais non, mais. Vous êtes con. Mais non, mais j'allais encore. Putain, mais non, mais. On va refaire du pire des proches et puis on va encore me dire, voilà, machin. J'allais vous dire. N'oubliez pas qu'il y avait un fort sentiment anti-allemand chez les juifs européens pendant la Seconde Guerre mondiale. Ne devenez pas comme ça. C'est vraiment le point Godwin sur lequel tu termines pour vraiment faire comprendre à tout le monde que voilà. Vous avez compris le truc? Une certaine antipathie, oui. Une certaine antipathie. Les rues de Paris ne sont plus sûres. Ah, les rues de Paris ne sont plus sûres. Hein. Il n'arrive pas à sortir de sa blague au secours. Non, mais c'est bon, je sors de ma blague. Je me suis chié dessus, for real. C'est pas comme si, en cas de prise de pouvoir des nazis, je prendrais une balle en pleine tête. Oui, mais ce serait une balle de la tolérance. La France a peur. Faites-le sortir de sa vanne. Non, non, mais j'arrête. Non, mais de toute façon, en plus, là, vous êtes trop nombreux. Là, je vous sens un petit peu... voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que... Voilà, déjà, je vais roter. Ensuite, je vais aller me chercher à bouffer. Qui est le danger? Ah, vous avez voté sur le sondage? Le danger, c'est Jean Massier. Ouais. Le danger, c'est Jean Massier. Bah, c'est noté. Ouais. N'oubliez pas, donc, que je fais... Que, voilà, donc, on fait monter le RN, ici. Visiblement, c'est ce qu'on fait de mieux. Je vais me chercher à bouffer. Je bouffe en discutant. Et ensuite, on va train la Zilane. Qui a dépensé 98K pour voter plusieurs fois? Il y a quelqu'un qui a claqué des... Ah oui, bah oui, parce que vous votez avec vos points de chaîne. Cam Potichat. Alors attends, on va voir si le Potichat est sorti. T'as raison, je vais regarder le Potichat. Il est où le Potichat? Ah, mais non. Mais non, la cam a été débranchée. Je vais la rebrancher. Je vais dans la cuisine, je vais rebrancher la cam. Train la Zinane, c'est pas faire monter l'extrême droite? Si. Si. Un nouveau t-shirt, le danger, c'est Jean Massier. J'avoue. J'avoue, c'est drôle. Du coup, j'y vais. Je vous laisse faire un chant de Sloubi. Merci, Bloubi, qui offre un abonnement. Je vous laisse faire un chant de Sloubi. Je reviens dans 5-10 minutes avec de la bouffe. À tout de suite.